Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Léridon, mais aussi Maïder Gérard, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Emmanuel Mansdincan. Deuxième temps de notre semaine consacrée au Ramadan. Hier, nous nous intéressions à la dimension très politique que revêt ce mois de jeûne musulman dans les pays du Maghreb. Aujourd'hui, c'est sa dimension consumériste et économique qu'il nous faut observer. Entre hausse de la consommation et ralentissement de l'activité, derrière la fièvre consumériste, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Pendant le mois de Ramadan, on utilise les grandes marmites qui font 150 à 200 plats.
C'est le mois où toutes les familles sont réunies parce que vous attendez tous l'heure de manger, donc tout le monde est là. On achète un peu plus en quantité ce mois-là.
Le top pour le Ramadan, c'est la baklawa, les petits losanges en fait aux amandes.
Gâteaux, épicerie, saveurs, on va acheter tous ces produits-là qu'on n'achète pas nécessairement toute l'année.
Pendant le mois de Ramadan, les gens surconsomment l'alimentaire, ce qui est paradoxal parce que normalement c'est un mois où les gens doivent être un peu plus assiettes, où ils doivent réduire les quantités alimentaires, c'est le principe du jeûne, et on se rend compte qu'au contraire, les gens surconsomment la nourriture et les aliments de façon générale.
Si le Ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam avec la profession de foi, la prière, l'aumône et le pèlerinage et qu'il consiste précisément à se retenir de manger, de boire et de fumer, l'abstinence ne dure pas et chaque soir vient le temps de le rompre. L'iftar, c'est sacré, il permet de renouer avec les traditions culinaires, il convient de le préparer de façon fastueuse, les tables doivent être copieusement garnies. Chaque année, les dépenses alimentaires des pratiquants augmente, un filon qu'ont bien saisi les commerçants. Alors que les boucheries et épiceries traditionnelles réalisent une bonne partie de leur chiffre d'affaires durant cette période, la grande distribution joue la concurrence en mettant produits halal et spécialités orientales en tête de gondole, tandis que certains restaurants organisent des ouvertures tardives. Un grand raout consumériste que remettent progressivement en cause les jeunes générations qui veulent redonner du sens à leurs pratiques religieuses. Dans les pays musulmans, ce coup d'accélérateur sur la consommation se double d'un fort ralentissement de l'activité économique. Horaires aménagés, absentéisme pendant un mois, administration, banque, mais aussi chantier ou industrie n'offrent plus qu'un service minimal. Alors au bilan, quel impact le Ramadan a-t-il sur l'économie? Qui en profite? En France, en Europe, mais aussi plus loin, au Maghreb et dans le monde arabe, à qui bénéficie la hausse de la consommation pendant le Ramadan? Comment les entreprises aussi développent un marketing spécifique pour l'occasion? Et qu'est-ce que cela nous révèle de l'évolution de sa place dans nos sociétés? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous. Camille Sari, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, spécialiste du Maghreb et du monde arabe. À vos côtés, Abbas Bendali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, directeur de Solis, qui est un cabinet d'études et de conseils en marketing ethnique. Et puis, vous êtes directeur d'une publication d'un magazine que vous nous avez rapporté, Ras El Hanout, qui est un magazine des professionnels des produits halal et orientaux. D'abord, peut-être la première idée sur laquelle je veux vous entendre l'un et l'autre, c'est que le Ramadan, c'est évidemment, on le sait, un mois de jeûne et d'ascétisme, ce qu'il est bien sûr en journée, mais c'est aussi, on l'entendait là dans le petit extrait que vous avez entendu, cette petite construction sonore, c'est aussi un mois de surconsommation en réalité, Abbas Bendali.
Oui, indéniablement. Donc c'est aussi une période joyeuse de retrouvailles familiales, amicales, et donc ce qui effectivement motive cette surconsommation. On estime que par rapport à un budget moyen, c'est 34% de plus par rapport à ce budget moyen qui vont être dépensés pendant cette période de Ramadan.
Pour les ménages français.
Pour les ménages musulmans.
Les ménages français et musulmans, 434 euros environ par famille.
C'est tout à fait.
Oui. Camille Sari. Un mois de surconsommation aussi, le Ramadan.
Oui, c'est quelque chose qui peut s'expliquer par le fait que les gens, pendant le Ramadan, ils ont faim, et puis ils commencent à découvrir des plats, etc. Et c'est intéressant parce que hier, j'ai écouté un imam sur une des chaînes marocaines, qui lui, il disait, mais arrêtez de surconsommer. Bon, un imam qui dit ça, il leur disait, mais c'est pas dans l'islam tout ça. Bon, moi, je porte pas du tout du jugement, je serai pas ici pour porter de jugement, de valeur sur l'islam, sur le Ramadan, etc. Je suis un économiste, je vais rester dans mon domaine. Et ce même imam dit, mais les hommes deviennent vraiment des dictateurs dans la maison, puisque à chaque fois, ben, ils inventent un plat, il dit à sa femme, tu me fais ce plat, et les femmes n'ont plus de droit de jouir de ce moment de piété, normalement. Donc elles restent toute la journée devant les fourneaux, et ça multiplie les plats. Donc tout ça, ça induit quoi? Ça induit une augmentation des prix des produits,
on va y revenir,
etc. Et vraiment une surconsommation et beaucoup de gâchis, de l'aveu même de tous les spécialistes, beaucoup de gâchis, parce que une table qui se respecte dans toutes les familles maghrébines et arabes en général, qui n'est pas garnie, c'est-à-dire avec une multitude de plats sucré, salé, etc., et de tous les ingrédients, les légumes, les soupes, etc., les viandes, les poissons, alors que d'habitude, il faut connaître aussi les gens, c'est des repas, je dirais, qui sont un peu pas déséquilibrés. Le matin, c'est vraiment à base de farine. À midi, grosso modo, c'est un plat, un tagine avec un peu de viande, un peu de... Parce que les gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter. Quand on prend la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le prix de la viande, il est très élevé. Et le soir, des fois, on mange pas un vrai repas parce que il n'y a pas les moyens. Mais pendant le mois de Ramadan, c'est l'explosion.
C'est l'explosion consumériste. Abbas Bendali, à qui profite justement cette fièvre consumériste? Si on regarde du côté de la France pour le moment, les petits commerces, les épiceries, les grandes surfaces qui elles aussi commencent à s'inscrire dans ce filon-là. Est-ce qu'on arrive à mesurer tout ça? Vous disiez une augmentation très claire de 34% des ménages musulmans en France, c'est 434 €. À qui ça va, ça?
Bah c'est l'ensemble du commerce qui va en profiter, l'ensemble du commerce, quel qu'il soit. On avait le commerce traditionnel historiquement bénéficiait de cette manne, hein, donc les boucheries musulmanes, les épiceries orientales, etc.
Boucherie, c'est très important parce que je crois que l'essentiel de ces dépenses, ça concerne la viande. Donc ça veut dire que
les boucheries,
évidemment, doivent
tirer le bénéfice. Voilà, Monsieur Sarri le rappelait, effectivement, la viande, ça pèse lourd dans le budget des ménages.
54%, c'est ça? J'ai bien lu.
C'est
votre cabinet qui avait fait.
Alors 54%, ça doit être le montant total des dépenses dans le commerce traditionnel, si j'ai le chiffre en tête. Mais c'est effectivement ce qui va peser le plus lourd dans le panier de la ménagère. Donc ça va profiter donc au commerce traditionnel, mais qui est challengé depuis maintenant, on va dire, une quinzaine d'années par la grande distribution.
C'est ce que j'allais vous demander. Ça fait 15 ans maintenant que la grande distribution se met justement sur ce filon-là.
Tout à fait, une quinzaine d'années où on voit, une démarche volontariste des enseignes, hein, successivement les unes après les autres, qui se sont évidemment engouffrées dans cette période, pour tenter de récupérer une partie effectivement de la manne, on va dire, entre guillemets.
Et comment s'y prennent-elles, ces grandes surfaces, justement? Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce qu'il y a une manière spécifique de vendre justement dans ce moment Ramadan?
Pour les grandes surfaces, elles le traitent, je dirais, comme n'importe quelle autre période. Je veux dire, le mois du blanc, Pâques, la fin d'année, etc. Donc, c'est des mises en avant que l'on voit dans l'allée centrale, hein, ce qu'on appelle l'allée centrale, dès qu'on rentre dans la grande surface, avec, selon les enseignes, des décorums plus ou moins sophistiqués, et puis, en tout cas, des offres sur les produits halal, et plus largement, c'est les produits orientaux. Donc, c'est la semoule, le couscous, les légumes secs, les boissons... Les sauces, etc.
Mais justement, parce que vous parlez de décorum, c'est important. La question, évidemment, de la place de l'islam en France, ça reste un sujet sensible. Est-ce que les grandes surfaces assument pleinement leur marketing Ramadan? Ou est-ce qu'au fond, ça se fait sous couvert d'une proposition, disons, plus large, disons, une proposition exotique, orientale? Est-ce qu'on assume, j'allais dire, le caractère confessionnel de l'événement marketing lié au Ramadan?
Tout dépend vraiment des grandes surfaces. Hein, certaines grandes surfaces, effectivement, l'affichent clairement. Hein, donc un des éléments, un des leviers, on va dire, sur lesquels s'appuient les grandes surfaces pendant cette période, ce qu'elles savent très bien faire, c'est le prospectus hein, qui est diffusé de manière large dans les boîtes aux lettres de toute la zone de chalandise. Donc effectivement, certaines grandes surfaces l'assument totalement, hein, donc affichent le tract Ramadan. D'autres affiches, comme vous le soulignez, saveur orientale, etc. C'est à la fois, effectivement, on peut imaginer que certaines ne l'assument pas, complètement cette période du Ramadan qui est pourtant effectivement une manne économique pour eux, mais on peut aussi imaginer qu'elle cherche à élargir le plus possible la cible des consommateurs qu'elle souhaite faire venir.
Mais pour toucher également les non-musulmans, c'est
tout
ça que
à fait,
vous dire.
Tout à fait. Donc clairement les attirer sur les saveurs orientales.
Camille Sarri.
Oui, mais moi j'ai enseigné le marketing. Ça fait partie de le marketing religieux, le marketing commercial n'a pas de religion. C'est-à-dire que les surfaces, et on le voit depuis longtemps, dans les années, moi je suis arrivé en France en 1977, il n'y avait pas une seule boucherie, il n'y avait pas dans les années 80. C'est une tendance qui a commencé par le petit commerce, et petit commerce géré par les Maghrébins. Ensuite, ça s'est industrialisé. Et cette industrialisation, elle n'est pas le fait du tout d'entrepreneurs d'origine musulmane. 60% à 70% de l'industrie agroalimentaire halal, elle est détenue par des non-musulmans, notamment des juifs d'Afrique du Nord. Les juifs d'Afrique du Nord, ils ont toujours été d'excellents cuisiniers, ils ont vraiment développé une cuisine maghrébine et orientale très raffinée, ils ont été en pointe, il faut le dire, et aussi ils ont excellé hein, dans ce domaine. Et il faut savoir aussi que dans ma ville, bonne ville de Montreuil, nous avons la boucherie industrielle Krief, qui est une boucherie...
Ils vont être contents que vous les citiez ce matin.
Ouais, qui est une boucherie qui respecte les rites du Bid-Din.
Ouais.
Et on voit beaucoup de musulmans et musulmanes venir faire leurs achats parce que c'est égorgé, etc. Ça ressemble. Bon, pour résumer, les grandes surfaces, quels que soient les dirigeants, depuis longtemps, ils ont un rayon halal pour toutes les grandes surfaces. Et ils captent une clientèle, ils font des études de marché. Ils n'ont pas de sentiment là-dessus. Hein.
Bien sûr, c'est des enjeux économiques.
La tradition végétarienne, ils vont s'engouffrer là-dedans.
Mais Abbas Ben Dali, est-ce que vous confirmez cette idée justement que le marché halal finalement n'est pas majoritairement détenu par des musulmans français et finalement, comment le comprendre? Et puis la question que je voudrais vous poser derrière, c'est est-ce qu'il existe un marketing halal spécifique, une sorte de modèle français? Parce que je sais que votre cabinet avait été sollicité il y a quelque temps par des Allemands pour savoir comment en France justement on s'y prenait pour vendre des produits achetés par la population française musulmane. Et donc la question que je me pose, c'est y a-t-il un modèle français en la matière pour qu'on vienne jusque chez nous voir comment nous on s'y prend, Abbas Ben Dali?
Oui, effectivement, je confirme. Hein, donc le marché du halal s'est développé, je dirais, sur une faible partie d'entrepreneurs musulmans. Hein, donc quand on voit, d'abord il y a des grands groupes hein, sur le marché de la charcuterie, hein, Fleury Michon. Qui a développé une offre halal comme il propose une offre bio.
Donc ces industriels montent des partenariats avec des certificateurs, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a un processus de certification pour les produits halal. On monte des partenariats avec des mosquées pour justement vendre ces produits.
Tout à fait, tout ouais, à fait. D'accord. Donc ils font appel à des organismes de certification, des organismes de certification qui sont soit indépendants, soit affiliés aux grandes mosquées, hein, celles de Paris, Lyon, de Lyon, d'Évry-Courcouronnes, pour effectivement apporter une réputation halal à leurs produits. Voilà.
Et pourquoi les Allemands viennent regarder comment on fait? Parce que justement, eux, ils n'ont pas ce système de partenariat entre industriels et grandes mosquées.
Non, alors...
Les certificateurs
Alors, les Allemands, effectivement, donc ils nous avaient sollicité, ça doit remonter il y a 3-4 ans maintenant, donc par la Chambre de commerce, donc qui souhaitait proposer à des industriels d'Outre-Rhin de visiter la France et à la fois ce circuit de distribution des industriels, des abattoirs, etc. Donc on l'a organisé à l'altour, on va dire, d'une semaine, et moi, ce que j'avais retenu, je connaissais pas du tout le marché allemand, et je les avais trouvés extrêmement surpris par la présence des produits halal, par l'abondance de l'offre, et surtout la présence de ces produits dans la grande distribution. Donc, visiblement, ce que j'ai compris, en Allemagne, le halal reste cantonné au commerce traditionnel, essentiellement détenu par des Turcs ou des originaires de Turquie. Et ils étaient étonnés de voir des grandes enseignes, des réseaux nationaux, proposer des produits halal. Alors ça, c'est sans doute le modèle français aujourd'hui, où effectivement, Monsieur Sarri le rappelait, c'est vrai que a priori, ça paraît évident, le commerce n'a pas de religion, entre guillemets. Il y a effectivement un business, une tendance, donc évidemment, à partir du moment où elle est validée, ils vont s'engouffrer dedans.
On va évoquer dans un instant avec vous, Camille Sarri, les conséquences économiques, mais pour poursuivre un tout petit peu sur cette question du halal, parce que les consommateurs, les Français musulmans vont vers du halal, très bien, mais les consommateurs français de manière générale vont aussi de plus en plus vers du bio. Comment se croisent justement ces deux considérations? Est-ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, des industriels halal qui font aussi du bio, qui s'affichent comme tels et qui jouent au fond sur les deux tableaux? Et est-ce que finalement c'est ça l'avenir?
Ça reste aujourd'hui relativement à la marge. Hein. Ouais. Les industriels qui répondent à la demande massive, donc aujourd'hui il n'y a pas d'offre bio par les grands opérateurs de charcuterie.
Mais vous sentez que ça pourrait venir?
Ça pourrait venir parce que
quand on voit les belles évolutions du marché bio, on se dit qu'a priori,
Il y a une demande. En tout cas, certains consommateurs le demandent. Il y a à la marge aujourd'hui certaines boucheries. Ça reste cantonné à certaines boucheries ou certains sites sur internet qui vont vous proposer de la viande halal et bio.
Camille Sarri, est-ce que l'augmentation des dépenses des musulmans de France, d'Europe, qu'on évoque à l'instant avec Abbas Ben Dali, pendant le Ramadan, peut aussi profiter aux pays non européens? Est-ce que, par exemple, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, pour ne citer qu'eux, exportent davantage vers l'Europe pendant cette période de Ramadan?
Oui, ils exportent, par exemple, les dattes, certains nombres de figues séchées, etc., certains produits alimentaires, mais peut-être même de la pâtisserie. Mais le reste, ces pays-là sont importateurs de viande, de produits agroalimentaires, et parce que les producteurs locaux ne sont pas, je dirais, capables de répondre aux besoins de marché.
Mais alors attendez, parce que s'ils sont pas capables justement de répondre à la demande du marché, précisément pendant le mois de Ramadan, c'est un mois où on surconsomme, on l'a dit, et donc on a besoin davantage. Donc ça veut dire, j'imagine, qu'on a besoin d'importer davantage au moment du mois de Ramadan, et que c'est une catastrophe du point de vue de la balance commerciale.
Évidemment, vous avez parfaitement raison. Il y a deux événements religieux au Maghreb qui accroissent donc les importations et aussi déséquilibre la balance commerciale et la balance des paiements. C'est le mois de Ramadan, donc avec importation massive de produits, pas seulement les viandes, etc., mais ça peut être des poissons aussi congelés, parce que les pêcheurs, la productivité chez les pêcheurs locaux n'est pas au rendez-vous. Mais et puis il y a le mois de sacrifice du mouton, l'Aïd el-Kabir, qui voit importer des moutons d'Argentine, de pays traditionnellement, historiquement, connu pour un élevage intensif. Et on a eu des scandales d'ailleurs en Algérie et au Maroc aussi de ces moutons qui se sont putréfiés très vite, de mauvaise qualité, etc. Et il y a beaucoup, parce que il y a le contrôle, il est pas très élevé. Il faut savoir que dans les deux pays, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, un peu la Tunisie, l'industrie agroalimentaire et les activités de distribution sont tenues par des dignitaires du régime. Le Maroc, c'est, je cite l'ancien premier ministre, Monsieur Jetto, c'est le roi du poulet, etc. Mais il n'y a pas que lui. Il y en a plein, le ministre de l'Agriculture, Monsieur Akhannouch. Et en Algérie, c'est les généraux, c'est les grands bonnets de l'importation.
Oui, qui tiennent l'économie en général, et donc l'agroalimentaire en particulier.
L'huile, etc., parce que c'est juteux.
Mais attendez, Camille Sarri.
Ils n'hésitent pas à croître les importations.
J'ai parfaitement compris. Du coup, est-ce qu'on arrive à l'arrivée à mesurer l'effet sur l'économie de ces pays que vous avez cités? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à dire, effectivement, quand arrive le mois de Ramadan, voilà comment l'impact que ça a sur la balance commerciale?
Il y a des études, donc d'accroissement des importations, au moins de 1 à 2% minimum. Mais il y a aussi, il y a des études sur l'impact sur la productivité, etc. On pourra en parler.
Alors justement sur la productivité, parce qu'évidemment, cette productivité, a priori, elle diminue. On arrive justement à mesurer ça?
Oui, et il y a des études. Il y a une étude américaine de professeurs de Harvard qui ont fait une étude, mais ils ont fait sur plusieurs décennies, parce que le Ramadan, comme tout le monde le sait, c'est un mois lunaire, il se déplace, il peut être au mois d'août, juillet, etc. Et puis l'amplitude de la journée du jeûne peut être de 13h, 14h, etc.
Et donc, c'était en moyenne,
l'hiver, le jour est plus court. Et donc, en moyenne, c'est moins, eux, ils estiment à moins 0,7% de chute de taux de croissance du PIB.
D'accord.
Ils l'estiment, mais moi, j'estime que c'est beaucoup plus, compte tenu des effets indirects sur la santé, sur les transports, sur le climat des affaires, sur les manques à gagner en matière de contrats. Par exemple, nous, moi j'étais à la tête de 350 sociétés françaises exportatrices de la région est-parisienne vers des pays du monde entier. Mais on déconseillait et les chambres de commerce aux industriels français d'aller au mois de Ramadan en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.
Oui, donc les affaires sont suspendues à ce moment-là, d'une certaine manière.
Dans certains ministères, je peux vous assurer que si les hauts fonctionnaires travaillaient 2 heures, c'est beaucoup. Ils ne devaient pas travailler 2 heures parce que moi-même, j'ai eu l'occasion d'y aller et je les attendais très longtemps devant leur bureau.
Est-ce que la baisse de la productivité, c'est un problème pour les autorités? Est-ce qu'elles essayent de la contenir, ou est-ce que finalement le poids religieux, politique du Ramadan est tel que on ne fait rien contre l'effondrement de la productivité?
Malheureusement, nous avons des États qui ont inscrit dans leur constitution que l'islam, c'est la religion de l'État et du pays. Et vu que c'est dans le Coran, dans la Shaira, donc on
malheureusement, touche pas. Malheureusement, je vous le laisse, c'est-à-dire que c'est un fait, point.
Oui, c'est un fait, donc personne ne touche à ce principe qu'on peut appeler tabou, qu'on peut appeler principe de pratique religieuse, et personne ne va, je dirais, faire de l'éducation. Par contre, ça commence. Hier, moi, j'étais étonné qu'un imam dit, si vous êtes malade, si vous avez, vous sentez une fatigue, ben, n'hésitez pas à demander à votre médecin, et vous n'êtes pas obligé de faire le Ramadan. Même, ça, c'est déconseillé. c'est déconseiller que, et qu'il faut arrêter de consommer de façon frénétique, qu'il faut être rationnel, que c'est même un péché de, je cite l'imam, de surproduire des plats et des repas et de jeter 60% à la poubelle. Donc, et ça peut passer par une sensibilisation. Mais le seul problème, moi je dis, c'est pas seulement la religion en tant que telle. Parce que c'est vrai qu'il y a des médecins qui se sont penchés sur la question. Il y a une baisse de glycémie, il y a un problème de sucre dans le sang de nous, êtres humains. Il y a des problèmes physiques et physiologiques qui font où les gens qui fument, qui consomment de la caféine, etc., ils ont une baisse physique de productivité. Mais tout ça, c'est amplifié par le climat général. C'est-à-dire, un musulman en France, il va être obligé de travailler plus parce que l'entreprise ne lui fait pas de cadeaux. Mais dans les pays musulmans, il y a une sorte de climat de complaisance. Moi, je travaille pas beaucoup. Vous travaillez pas beaucoup. Le patron ne travaille pas beaucoup. Bah, on va se mettre d'accord implicitement de travailler moins.
Abbas Ben Dali, peut-être une réaction avant d'évoquer la question de l'inflation, qui est aussi une question extrêmement importante. Réaction.
Juste deux choses, peut-être. Donc, c'est pas mon domaine, mais l'Algérie, en tout cas, c'est adapté. Il faut savoir que le week-end était le jeudi et vendredi, et donc il est passé du vendredi au samedi, pour se caler un petit peu sur, globalement, en dehors du ramadan, sur ses aspects de productivité, et puis échange, avec le reste du monde. Juste, moi, ce que je voulais dire, c'était par rapport aux échanges avec le Maghreb, qui sont extrêmement importants tout au long de l'année. C'est pas que des dattes et des figues qui sont échangées, donc faut savoir que le couscous, qui est le plus consommé en France, il est importé du Maroc. Donc c'est effectivement toutes des pâtes du couscous, du concentré de tomates, tous les produits type harissa et puis des boissons etc., des sodas qui sont importés des pays du Maghreb. Donc il y a des échanges qui sont importants tout au long de l'année, évidemment, qui se multiplient pendant cette période du ramadan. Juste ce que je voulais dire tout à l'heure, effectivement, on parlait de ce marché qui est détenu, on va dire, par des non-musulmans. On disait effectivement, il y a quelques entrepreneurs musulmans qui ont créé des marques, des produits, etc., et qui sont actifs aujourd'hui. À l'exception, il y a une marque quand même aujourd'hui, enfin une société qui est Cévital, qui est une société algérienne, qui est active aujourd'hui sur le marché français, dans le domaine, je dirais, le plus important, qui est celui de la charcuterie.
Je voudrais qu'on parle de la question de l'inflation, parce que souvent, les prix des denrées alimentaires ont tendance à augmenter durant le ramadan. Il y a certains commerçants qui profitent de l'augmentation de la demande pour augmenter les prix. C'est par exemple ce qui s'était passé du côté de l'Algérie en mai 2016.
Par exemple, les fruits et les légumes, c'est vraiment excessivement cher. Les oranges sont produites, d'ailleurs, quand même, à 24 000, 20 000, quand même.
C'est énorme, c'est excessif. C'est une augmentation vraiment excessive.
Je fais 3 fois, 4 fois le tour du marché pour voir où je trouverai quelque chose moins cher à la portée de ma bourse.
Voilà, donc sur un marché d'Alger, petit micro-trottoir. Camille Sari, est-ce qu'on arrive à avoir une idée de l'impact inflationniste du ramadan? Et qu'est-ce qui est fait pour justement lutter contre tout ça?
Moi, je me suis penché beaucoup sur cette question d'inflation. Et vu que je me méfie des statistiques officielles de tous ces pays-là concernant tous les indicateurs...
Vous avez fait votre propre étude.
Exactement.
Sur le terrain.
Et y compris, j'appelle, je suis un peu dans les réseaux sociaux, les réactions.
Et alors ça donne quoi?
Une augmentation, mais brutale, du jour au lendemain. Par exemple, le Maroc. Aujourd'hui, c'est le début du ramadan. Aujourd'hui, on m'a dit un œuf. L'œuf, ça c'était un dirham. C'est pour vous, 1 euro, c'est 10 dirhams, pour vous donner une idée. Et il est monté à 5, multiplié par 5. L'oignon il est passé de 3 dirhams à 7 dirhams. La tomate, il est passé de 5 dirhams à 10 dirhams parfois, parce qu'on consomme beaucoup de tomates pour la rira, pour la soupe marocaine connue, ce qui est une obligation qu'elle soit dans, sur la table, les oignons, tous ces ingrédients, les œufs, tout ça.
Et qu'est-ce qui est fait pour éviter justement cette inflation en termes de contrôle des prix?
Bien entendu, moi je regarde les chaînes, parce que j'observe, je suis un observateur, je regarde les chaînes marocaines et algériennes, là, il y a beaucoup d'inspecteurs qui y tournent, qui donnent des conseils, mais tout ça c'est du pipeau, excusez-moi l'expression, je vais être vraiment trivial, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, toutes ces activités sont le monopole de dirigeants, de dignitaires. Et ça descend au niveau du petit commerçant.
Donc il n'y a pas de véritable volonté politique de contrôler cette hausse des prix, si je vous comprends bien. On va retrouver une nouvelle invitée depuis Alger, qui est Amel Boubekeur. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes sociologue et chercheuse à l'EHESS. Vos recherches portent sur l'islam de France et plus largement d'Europe et sur les transformations contemporaines de l'islam politique. Est-ce que vous diriez que les jeunes générations, Amel Boubekeur, de musulmans, ont une approche différente du ramadan de celle de leurs aînés? Est-ce que, par exemple, les plus jeunes s'interrogent sur ce qu'on décrit depuis un certain nombre de minutes avec nos invités, depuis 11 heures, sur la fièvre consumériste qui est liée au ramadan? Est-ce que ça, il y a une approche peut-être différente des jeunes générations de musulmanes et de musulmans?
Oui, certainement. Et en même temps, les jeunes musulmans, c'est un petit peu un mosaïque qu'il est nécessaire de déconstruire. Si on peut éventuellement le déconstruire en fonction des appartenances socio-culturelles. Et puis, il y a forcément aussi cet âge important, un moment important, qui est l'adolescence. Si je commence par ce ramadan adolescent et par ce qu'on peut observer sur le terrain, c'est vrai qu'il y a une espèce de célébration très hédoniste, en fait, du ramadan. On parle là de jeunes musulmans qui, pour leur grande majorité, font du ramadan le point nodal de leur pratique religieuse. Tous ne prient pas, tous n'ont pas une pratique quotidienne plus poussée. Et par conséquent, le ramadan apparaît là comme un moment de célébration d'identité de groupe, mais effectivement d'identité de groupe adolescente. Alors c'est très drôle parce qu'on peut voir notamment sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., des témoignages sur la manière dont ils vivent le ramadan. Et alors c'est une appréhension du ramadan qui est complètement déconnectée des approches théologiques ou de la norme stricte de l'abstinence, pas simplement sur le plan physique, mais sur le plan moral, etc. Et effectivement, alors, durant la journée, ces jeunes adolescents, comme les autres adolescents, passent leur journée à regarder Netflix, passent leur journée à préparer le sandwich grec, c'est-à-dire le sandwich bourré de frites et de mayonnaise avec si possible une couche de Nutella par-dessus qu'ils vont consommer après la rupture du jeûne, etc. Donc voilà, je caricature un peu, mais c'est une approche du ramadan qui en fait est bénie. Pourquoi? Parce que elle met en avant effectivement le moment de privation, mais surtout le moment de célébration et d'orgie alimentaire, selon des modes d'ailleurs purement... claqué sur l'économie libérale et pas du tout, en tout cas il y a de moins en moins sur les cuisines traditionnelles du pays d'origine de leurs parents.
C'est ça qui me frappe dans ce que j'entends de votre description, j'allais dire du ramadan 2.0, pardonnez-moi l'expression, mais c'est que au fond le terreau culturel originel est en train de s'effacer un petit peu. Il y a une forme de déculturation, cette pratique du ramadan. Est-ce que vous iriez jusque là?
Oui, c'est bien normal. Enfin, elle existe sur les autres aspects religieux. Après, elle peut aussi prendre cette déculturation, elle peut prendre aussi d'autres aspects. Là, comme je vous l'ai dit, je me focalisais sur la question adolescente, c'est effectivement très sensible à la question des réseaux sociaux, à la question de l'hyperconsommation, à la question effectivement de la malbouffe, de la junk food, etc. Après, il y a effectivement une classe moyenne de musulmans plus adultes, jeunes, trentenaires, etc., qui l'appréhendent totalement différemment. Où là, effectivement, le ramadan est un moment d'interrogation, non pas simplement religieuse, mais aussi sur les pratiques de consommation. De plus en plus, des jeunes musulmans de classe moyenne avec un capital socio-culturel un peu plus élevé que les adolescents dont je viens de parler, se posent la question de la manière dont le ramadan peut être aussi une opportunité de repenser les modes de consommation. C'est-à-dire, certains, par exemple, trouvent leur compte en devenant végétarien parce que, justement, pour des raisons d'opposition idéologique à l'exploitation animale intense, etc., et la consommation effrénée de viande traditionnellement pendant le ramadan. D'autres pensent que choisir des produits qui sont issus du commerce équitable est une manière de relier cette volonté d'être dans l'essence, d'être dans l'excellence, ce que demande l'excellence morale, que demande le Ramadan. Et donc, voilà, c'est une façon aussi d'achever ou de parachever une certaine forme de politisation un petit peu différente, plus engagée sur une reconceptualisation de la consommation de manière responsable, de manière autonome, de manière minimaliste. Et on voit effectivement ça poindre lors du Ramadan.
Mmh. Mais est-ce que cette déculturation, je la mets entre guillemets, parce qu'en réalité, il y a effectivement peut-être une mise à distance des cultures originelles, et là, je mets beaucoup de formules entre guillemets, mais est-ce qu'elle produit aussi de la désocialisation, ou est-ce qu'au contraire, ces nouveaux centres d'intérêt, ces nouvelles préoccupations produisent en retour de nouvelles formes de sociabilité? Pour le dire autrement, est-ce que ces nouvelles pratiques n'altèrent pas, d'une certaine manière, la convivialité traditionnelle qui va avec le Ramadan?
Alors bien évidemment, mais j'ai envie de vous dire que cette convivialité traditionnelle, elle est en fragmentation, y compris hors période du Ramadan.
Oui.
Donc effectivement, on se rencontre, mais ça concerne beaucoup plus les jeunes adolescents dont je parlais, qui effectivement se rendent plus volontairement, plus aisément dans des fast-foods, parce que c'est une norme et un repère important pour eux, pour leur génération. Mais cette désocialisation, elle est aussi imposée par des contraintes externes, elle est aussi imposée par le fait que, justement, les jeunes adultes travaillent, ne peuvent pas prendre le temps du jeûne, du moment de la rupture du jeûne, parce qu'ils sont sur leur lieu de travail. Alors maintenant, bon, le jeûne est un peu plus tard dans la journée, donc effectivement, ça change, mais les gens sont fatigués, reprennent le travail le lendemain. Et cette façon aussi de penser le jeûne comme le Ramadan de manière plus minimaliste, c'est-à-dire se concentrer sur l'essentiel, à savoir les prières, l'aumône, et une réforme de soi, est aussi une façon de réconcilier en fait la temporalité du jeûne à la temporalité quotidienne de l'environnement dans lequel il se trouve, du travail, la nécessité de continuer de ne pas pouvoir prendre ce temps-là. Donc il y a une espèce de comme ça, d'hybridité, en fait, de cette reculturation du Ramadan ad minima, de la réforme de soi, qui est un choix, mais qui est aussi le résultat des contraintes externes.
Oui, bien sûr. Vous parlez du travail à l'instant, du monde du travail. Le Ramadan, on l'a dit tout à l'heure avec Camille Sari et Abbas Bendali, c'est un moment où les abstinents perdent un peu en productivité. Et aujourd'hui, on est totalement obsédé par notre productivité. Il faut dire que toute notre activité est comptée, et évaluée et mesurée depuis nos performances au travail, précisément jusqu'au nombre de pas qu'on va réaliser chaque jour et que ne manque pas de nous rappeler notre gentil smartphone. Est-ce que les jeunes musulmans en particulier cherche à adapter peut-être le jeûne pour qu'il ne soit pas trop coûteux en matière de productivité, en matière de performance? Est-ce que c'est une dimension qui entre dans leur réflexion, Amel Boubeka?
Eh bien, c'est une lecture contraire, en fait, qui est en train d'émerger, justement, au fur et à mesure que les jeunes adultes musulmans ancrent leurs pratiques dans leur temporalité quotidienne, à savoir que le Ramadan est une période bénie, une période de baraka, donc une période où la productivité serait plus importante. Et donc, c'est aussi cette réforme de soi dont je parlais tout à l'heure. On voit comment les discours circulent sur la nécessité, en fait, de bénéficier, de prendre cette opportunité en route de la productivité, bénédiction de Dieu pendant le Ramadan dans tous les actes qui sont réalisés. Et la Amel Aïdada, en islam, le travail est considéré comme une adoration. Et par conséquent, vous avez en fait ces discours qui sont d'une part antilibérales, anti-impérialistes, comme je le rappelais tout à l'heure, mais d'autre part, qui valorisent la productivité, le travail, le sérieux, l'engagement dans le travail, aussi comme un acte de foi. Et ça, ce sont des discours que l'on voit émerger, en fait, et qui sont bien évidemment le produit de cette nécessité d'être productif en Occident, en Europe, mais aussi d'une réflexion plus profonde sur la manière de repenser la foi par rapport à notre temps.
Amel Boubeker, et ça sera ma dernière question, j'en profite, vous êtes en ce moment en Algérie. Le pays est évidemment un peu dans les spectatives. On ne sait pas où va mener la crise sociale et la crise politique actuelle. Hier, on s'interrogeait dans cette émission sur la suite de la mobilisation. On se demandait si le ramadan, qui a commencé lundi, allait produire une sorte d'essoufflement, de pause dans la dynamique contestataire. Qu'en est-il sur le terrain? Vous êtes sur place. Est-ce que vous avez le sentiment que les Algériens sont toujours aussi déterminés et restent en veille sur le processus en cours afin qu'il accouche d'un vrai changement? Ou est-ce que vous sentez une pause aussi dans la mobilisation?
Oui, alors, si vous me permettez, je répondrai très rapidement. Je m'en voudrais de ne pas donner une vision complète du paysage sur la fragmentation de la solidarité. Il y a c'est aussi le moment pour beaucoup de jeunes musulmans de s'investir dans les mosquées, de s'investir dans des initiatives de distribution de repas, pas simplement aux musulmans, etc. Mais c'est une initiative, c'est un engagement qui est choisi. Et en fait, c'est là qu'est la différence. C'est un engagement qui est choisi à partir d'un niveau personnel et fort d'engagement, en fait. Donc, je fermerai cette parenthèse pour revenir à l'Algérie. Eh bien, écoutez, là aussi, le ramadan, pour la première fois, c'est plutôt une période traditionnellement un petit peu comme ça, de mise sur pause en Algérie et dans l'ensemble des pays arabo-musulmans. Est envisagé là comme une opportunité de reconscientisation. Et vendredi dernier, lors de la dernière marche, les Algériens ont été très clairs. Nous allons sortir après les prières de Tarawih, donc ce sont les prières qui sont les prières de nuit, les prières nocturnes qui sont traditionnellement effectuées lors des nuits de Ramadan. Nous allons organiser des istas, donc des repas de rupture de jeûne géants à Alger. Nous serons en solidarité, et bien évidemment avec l'animation persique, tout simplement parce qu'aucune perspective de négociation réelle n'a été ouverte par le régime encore. L'arrestation de Ponte, donc du frère de l'ex-président Bouteflika, Saïd Bouteflika, de l'ancien directeur des services secrets, général secret Médienne, etc., sont considérés comme étant des affaires internes de revanche et de restructuration des intérêts au pouvoir. C'est comme ça que disent les Algériens. Donc pour eux, en fait, la négociation n'a pas commencé et la pression doit être maintenue pour arriver à un véritable processus de transition sur lequel ils pourront avoir un droit de regard pour non pas changer de personnalité au pouvoir avec les mêmes pratiques, mais au contraire pour pouvoir aller vers une refonte de la Constitution, de nouvelles institutions avec de nouvelles pratiques politiques plus transparentes et surtout avec une reddition des comptes qui puisse appartenir et qui puisse être faite par les Algériens directement.
Bon, donc on reste en veille politique pendant le ramadan. Merci beaucoup Amel Boubeker d'avoir été avec nous depuis Alger. Je rappelle que vous êtes sociologue et chercheuse à l'EHESS. Vous parliez de l'iftar, le moment où on rompt le jeûne. Il y a un incontournable alimentaire de l'iftar, c'est la feuille de brique. Cette petite feuille qu'on utilise pour mettre des produits à l'intérieur de la viande, du poisson, des légumes. On va parler justement de cette feuille de brique. C'est un spot publicitaire qu'on entend pour Dioulédar, qui est une marque de feuilles de briques algériennes. La feuille de brique, c'est une fine feuille faite d'une pâte à base de farine, de semoule, d'eau et de sel, avec des variantes qu'on appelle boulek en Algérie, qu'on appelle brouate au Maroc. Elle est utilisée depuis très longtemps dans le monde musulman, dans le monde arabe. Elle serait apparue au XIe siècle, c'est ce qu'on trouve comme information, au sein des cultures nomades qui avaient besoin de transporter leur nourriture et qui auraient trouvé là une bonne manière de le faire. On peut y mettre toutes sortes de choses, hein, je disais, des légumes, de la viande, du poisson, que sais-je encore. Ce serait au fond une forme de culture du snacking, un petit peu avant l'heure. On va tenter justement de comprendre comment s'est exportée cette feuille de brique. Bonjour Jean-Pierre Assoun. Jean-Pierre Assoun, est-ce que vous m'entendez? Jean-Pierre Assoun, vous m'entendez?
Oui,
voilà, merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes sociologue de l'alimentation et un directeur de recherche au CNRS. Vous vous intéressez à la manière dont les produits qui arrivent avec l'immigration se diffusent dans l'ensemble de la société et vous êtes intéressé en particulier à la feuille de brique. D'abord, on va commencer par le début, j'allais dire. Comment est-ce qu'elle arrive sur l'étape française? À partir de quand on la voit apparaître en France dans les premiers commerces, Jean-Pierre Assoun?
Eh bien, écoutez, la feuille de brique arrive en France dans les bagages des migrants juifs de Tunisie à la fin des années 50. Pendant tout un temps, jusqu'aux années 70, elle restera cantonnée, en fait, dans les cuisines. Ce sont les ménagères qui la produiront de façon artisanale. Parfois, on la voit vendue dans du papier journal, dans des épiceries ou des boucheries. Mais là, on en est au stade artisanal. La feuille de brique a commencé à s'industrialiser en France grâce à Claude Journeau, qui est également venu de Tunisie, et qui n'avait pas d'autre formation que d'avoir vu sa mère fabriquer des feuilles de briques dans sa cuisine, mais qui a eu l'idée d'adapter la machine à faire des crêpes en feuilles de briques. Il est allé en Bretagne, à Locarn, rencontrer Claude Lostalen, un ingénieur inventeur, et tous les deux, ils ont modifié la machine à faire les crêpes qui n'avait été inventée que quelques années plus tôt. Donc pendant une dizaine d'années, il produira des briques, des milliers de briques comme ça. C'est la première, disons, machine à fabriquer des briques en série. Et il alimentera surtout les pâtisseries orientales, les commerces immigrés, les pâtisseries orientales qui commencent à cette époque à s'implanter au quartier latin. Et il faut attendre des années 80, mais souvent Claude Journeau, c'est le pionnier, mais souvent c'est pas le pionnier qui prospère, donc il va faire faillite. Et il va être relayé par la famille Castro, également venue de Tunisie, qui crée l'entreprise Sofabrique, qui aujourd'hui, dans les conditions les plus modernes, assure à peu près 80% de la production, c'est-à-dire environ 25 millions de chiffres d'affaires et 250 millions de briques qui sont produites chaque année.
Qui est une entreprise qui est installée à Gonesse, en région parisienne, qui s'est installée au milieu des années 80. Voilà. Mais au fond, aujourd'hui, on a assez peu d'industriels. C'est le seul où ils sont peut-être deux. Il y a peut-être deux sociétés qui fabriquent aujourd'hui de la feuille de brique.
Deux principales sociétés, oui, deux principales.
Et qui sont tenues par des non-musulmans ou par des musulmans?
Oui, ce sont des juifs de Tunisie, puisque aujourd'hui, le produit dont la production au moment du ramadan est multipliée par 6 ou 7, c'est extrêmement difficile d'assurer la demande. Donc ce produit est certifié cachère parce que les deux familles productrices tiennent à cette certification. Et puis ça rassure également les populations musulmanes dans la mesure où il y a la prohibition des graisses de porc. Donc ça se fait comme ça.
Comment comprendre Jean-Pierre Hassoun, parce qu'il y a quand même une question moi qui me vient, c'est que a priori cette feuille de brique, elle est aussi produite au Maghreb par exemple. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas des sociétés au Maghreb par exemple, en Algérie, Dioulédar c'est une marque algérienne. Comment se fait-il qu'il n'y a pas aujourd'hui de feuille de brique de cette marque-là algérienne qui soit exportée du côté de la France?
Il y a une question de normes parce que le paquet de feuilles de brique doit se conserver à une certaine température et c'est pas un produit qui est facile à faire circuler entre les pays. Il y a vraiment une question de normes sanitaires. Donc pour l'instant, non, ce sont deux entreprises françaises qui assurent cette production. Production qui est devenue extrêmement importante puisqu'elle dépasse aujourd'hui très très largement les populations musulmanes, bien sûr. Et puisque à partir des années 90, les chefs français se sont emparés de ce produit et l'ont utilisé pour faire des produits typiquement français, comme les corolles, les croustillants, les aumônières. Et donc, ils sont également appuyés sur les qualités diététiques de ce produit. Et c'est un petit peu la cuisson au four qui a remplacé la friture dans l'huile.
Et donc, maintenant, on fait de la cuisine typique française avec de la feuille de brique qui nous vient de l'autre rive de la Méditerranée. C'est intéressant parce qu'au fond, à vous entendre, j'ai le sentiment que cette feuille de brique, on a un double phénomène d'appropriation, c'est-à-dire une appropriation économique et puis une appropriation culturelle.
Absolument, il y a un double marché, si vous voulez, qui se maintient et qui prospère dans les deux côtés. Il y a un double marché, un marché, disons, immigré ou plus immigré, ce sont des gens d'origine immigrée. Donc pour eux, c'est un petit peu une sorte de cuisine de terroir. Ils ne l'ont souvent jamais goûté dans les pays du Maghreb et ils la découvrent parfois ici. Et parallèlement, il y a donc ce marché de la gastronomie française et c'est pour ça que donc on la trouve présente. Aussi bien dans les grandes surfaces que dans les petits commerces immigrés ou les boucheries halal.
Ce qui explique peut-être, Jean-Pierre Hassoun, le packaging, pardonnez-moi d'utiliser un mot français, qu'on retrouve, un mot anglais, pardon, une formule anglophone en tout cas, derrière cette feuille de brique. Oui. La fameuse entreprise que vous évoquiez tout à l'heure, Sofabrique, je crois qu'elle vend une marque de feuille de brique sous les initiales JR. Alors pourquoi JR? Parce que là, il y a un certain nombre d'imaginaires, vous décryptez tout ça, c'est très intéressant dans l'un de vos articles, vous décryptez les imaginaires justement derrière cet emballage.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, c'est la même feuille de brique produite par les mêmes usines, exactement la même, qui est vendue sous deux récits différents. Mmh. Le packaging proposant un récit, disons, immigré, entre guillemets, qui fait référence à l'Afrique du Nord, et de l'autre côté, un packaging où la référence historique et géographique du produit est complètement gommée et complètement absente. C'est le packaging qu'on trouve à Auchan ou à Carrefour, et où là, il n'y a plus aucune référence, mais le produit est le même. Donc, c'est deux imaginaires, si vous voulez, qui qui se sont construits parallèlement et dont le marché se satisfait évidemment.
Voilà. Vous restez avec nous, Jean-Pierre Assoud, mais je voudrais entendre nos deux invités, et peut-être en particulier vous, Abbas Bendali, sur ce cas d'appropriation culturelle et économique de la feuille de brique.
En quelque sorte, la feuille de brique, si vous voulez, elle s'est assimilée à la société française, ou la société française a assimilé la feuille de brique.
Abbas Bendali, sur ce cas intéressant.
Oui, c'est très intéressant. C'est un peu à l'image aussi du couscous.
Hein, donc, parlez devant le micro.
Je dis, c'est à l'image aussi du couscous, hein, qui est aujourd'hui un des plats favoris des Français, et donc qui est complètement rentré, je dirais, dans les mœurs culinaires.
Camille Sarri. Attendez, je vous donne la parole, Jean-Pierre Assou. Camille Sarri.
Il ne faut pas oublier aussi que le plus gros du bataillon des touristes qui vont en Tunisie, au Maroc notamment, ce sont les Français. Et donc ces Français-là, ils reviennent avec les goûts, l'amour aussi de le parfum de belles vacances. Et puis aussi les binationaux, il y a les couples mixtes. Tout ça, ça se propage et ça donne la configuration actuelle. Et je reviens
sur. Et ça produit cette appropriation.
Voilà. Et je reviens sur le fait que ce soit des Juifs qui ont implanté ces industries en Europe et notamment en France. C'est d'abord parce que, comme je l'ai dit, donc ils ont excellé, les Juifs, dans le raffinement, dans la fabrication. Moi, j'ai eu l'occasion d'en goûter quand j'étais au Maroc. Mais aussi, l'immigration juive qui est venue en Europe, c'était une immigration, je dirais, d'élite. De gens qui avaient les affaires, qui voulaient faire créer de l'activité, des entreprises, etc. C'était vraiment l'élite, pour des raisons politiques, etc. Je reviens pas là-dessus. Contrairement à l'immigration maghrébine, arabophone, musulmane, qui, elle, c'était
des classes sociales plus défavorisées.
Des ouvriers, etc.
Jean-Pierre Assoun, vous vouliez réagir?
Oui.
On arrive vraiment au terme de l'émission, donc je vous en prie.
Mais disons que c'est un double mouvement, parce que d'une certaine façon, la tradition s'est industrialisée, et en parallèle, le produit s'est gentrifié. Parce qu'en fait, donc et ça, je pense, c'est un cas vraiment très intéressant de circulation, parce qu'on parle souvent de la circulation des hommes et des femmes, bien sûr, mais dans les bagages, il y a souvent des marchandises aussi, voilà.
Et est-ce qu'en circulant, cette feuille de brique a changé de goût? Depuis les années 50 à aujourd'hui,
rien ne se reproduit à l'identique, rien ne se transpose de façon identique, bien que les gens essayent de croire que rien n'est changé. La feuille de brique, elle a changé de goût, parce que au début c'était de la farine de blé dur, et maintenant c'est de la farine panifiable, parce que qui est moins chargée en gluten. Mais c'est pas du tout par aversion pour le gluten, c'est parce que le gluten ralentissait la production des machines. Donc nécessairement le goût a changé, la feuille de brique est moins attractante, mais les gens qui ont connu l'ancien goût sont de moins en moins présents. Donc de fait, on n'y sait plus.
C'est formidable, c'est formidable tout ce qu'on peut apprendre autour de la feuille de brique, Jean-Pierre Assoun. Hein, qui l'eût cru? Un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup également à nos deux invités qui étaient là en plateau avec nous. Je rappelle Abbas Bendali, directeur de Solis, qui est un cabinet d'études et de conseils en marketing ethnique, et puis directeur d'une publication, bon, c'est pour les professionnels, hein, les professionnels des produits halal et orientaux, Ras El Hanout, c'est le titre de ce magazine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Camille Sarri, je vous remercie également d'avoir été avec nous. Vous êtes économiste, spécialiste du Maghreb et du monde arabe, et puis auteur notamment de la communauté économique maghrébine, Une œuvre à construire, c'était chez L'Harmattan en 2015. Merci beaucoup à tous les deux.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Tocqueville et Hippolyte Taine ont montré combien les classes dirigeantes de la monarchie décadente avaient précipité leur propre liquidation. Pardon Brice.
Oui, d'après eux, l'aristocratie de la seconde moitié du XVIIIe siècle a épousé et protégé des doctrines qui devaient fatalement conduire les siens à l'échafaud, par frivolité et par inconséquence. Écoutez Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution parler de l'aristocratie. Les doctrines les plus opposées à ses droits particuliers et même à son existence lui paraissaient des jeux fort ingénieux de l'esprit. Elle s'y mêlait elle-même volontiers pour passer le temps et jouissait paisiblement de ses immunités et de ses privilèges en dissertant avec sérénité sur l'absurdité de toutes les coutumes établies. Étienne, dans les origines de la France contemporaine, résumant l'état social de la France d'en haut à la veille de la Révolution. Une aristocratie imbue de maximes humanitaires et radicales, des courtisans hostiles à la cour, des privilégiés qui contribuent à saper les privilèges, il faut voir dans les témoignages du temps un étrange spectacle. Et de citer cet extrait révélateur des mémoires du comte de Ségur justifiant le goût de ses amis bien-nés pour la philosophie des Lumières. Ce n'était que combat de plumes et de paroles qui ne nous paraissait pouvoir faire aucun dommage à la supériorité d'existence dont nous jouissions et qu'une possession de plusieurs siècles nous faisait croire inébranlable. Les formes de l'édifice restant intactes, nous ne voyions pas qu'on le minait en dedans.
Et Brice Lénine avait une formule très cinglante pour décrire la complaisance d'une partie des classes possédantes envers les doctrines mêmes qui prévoyaient leur dépossession, je le cite, « Les capitalistes sont tellement bêtes qu'ils nous vendront la corde pour les pendre ».
Eh oui, eh bien c'est exactement le chemin que sont en train de prendre les ultra-riches d'Occident, selon le géographe américain Joel Kotkin. Durant tout le XXe siècle, écrit-il, la business class, les possédants, si vous voulez, ont soutenu les conservateurs en Grande-Bretagne, les républicains aux États-Unis, les libéraux en Australie. Ils votaient à droite pour les partis qui protégeaient les droits de propriété et qui n'augmentaient pas les impôts conformément à leurs intérêts. Mais à présent que les élites urbaines votent démocrates ou travaillistes, tandis que les anciens ouvriers, ruinés par les délocalisations, ont déserté les partis de gauche, ce sont ces derniers que soutiennent de leurs deniers les super riches, en particulier aux États-Unis. Tant à Hollywood que dans la Silicon Valley, en particulier où se font les grosses fortunes, il est de bon ton d'afficher des opinions avancées, de se moquer de la morale traditionnelle et même de la décence ordinaire, et surtout de prêcher une écologie d'autant plus radicale qu'on se garde bien de la mettre en pratique soi-même. Je cite Kotkin. Les classes supérieures aujourd'hui ont adopté un agenda qui fait peu usage des valeurs traditionnelles, que ce soit les rôles sexuels ou les normes culturelles. De plus en plus, il ne s'agit plus simplement de tolérance, non, mais d'un défi agressif envers la culture familiale, autrefois considérée comme l'un des fondements de la réussite des sociétés. La superclasse, afin de démontrer son ouverture d'esprit, finance largement des associations destinées à promouvoir des causes dont les objectifs heurtent de plein fouet les sentiments des classes moyennes et populaires, comme par exemple le fait de ne plus élever les enfants selon leur sexe biologique. Mais c'est surtout dans le domaine de la défense de l'environnement que s'investissent les riches donateurs. Le changement climatique est un problème en mal de solution, écrit Kotkin. Mais les approches favorisées par les superfortunés rendent évidente leur hypocrisie. Comme des aristocrates médiévaux, nos oligarques se sont créés des dispenses spéciales aux injonctions vertes qu'ils contribuent à imposer aux autres. L'exemple le plus fameux, c'est celui de ces sommets consacrés au climat et à la critique des énergies fossiles auxquels de très nombreux participants se rendent en jet privé. Mais là où ces généreux donateurs parviennent à faire adopter les législations qui ont leur faveur, eh bien, les prix de l'énergie et de l'immobilier s'envolent, ce qui ruine les classes moyennes et contribue à les dresser contre les politiques écologistes. L'exemple de la Californie, l'état censé le plus vert des USA, est flagrant. Les taux de pauvreté y sont parmi les plus élevés du pays, alors même que les émissions de gaz à effet de serre ont en réalité très peu baissé. D'ailleurs, les industries les plus polluantes ont été délocalisées au Mexique ou en Chine sans que le climat y gagne quoi que ce soit. Les super-riches ne tarderont pas à réaliser en outre que l'écologie profonde, celle qui défend la décroissance, est fondamentalement anticapitaliste. En la soutenant de leurs dollars, les super-riches auront ainsi financé la fameuse corde pour les pendre.
Voilà, et Lénine aura eu raison. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve évidemment demain et dans un très court instant, on retrouvera Olivia Gesbert et La Grande Table.